Et je vous invite à prendre le livre le plus merveilleux du monde, le plus précieux que nous pouvons avoir, votre Bible, pour l'ouvrir au psaume 129. Cantique des montées. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, l'Éternel a détaché les cordes des méchants. Qu'ils soient honteux, qu'ils reculent tous ceux qui ont de la haine pour Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni les lieurs de gerbes sa poche, et les passants ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Et nous allons lire un autre texte dans le Nouveau Testament, qui reviendra aussi dans la prédication, le texte dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternels. Vous pouvez donc avoir vos Bibles ouvertes sur le psaume 129. Et la parole de Dieu est en fait inefficace si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans nos cœurs. C'est comme si l'on mangeait des aliments et que nos cœurs n'arrivaient pas en fait à saisir les éléments dont le corps a besoin. Ça passe tout droit. C'est la même chose, en fait, de lire, d'étudier la parole de Dieu si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans nos cœurs. Et ma prière, c'est que les aliments spirituels que nous allons avoir ce matin puissent être digérés et utiles pour notre santé spirituelle grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, de qui nous sommes, j'aime bien le dire comme ça, nous sommes joyeusement dépendants, consciemment, de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Depuis le début de l'année 2016, nous suivons maintenant les psaumes qui font partie d'un recueil de chants intitulé le psaume des montées. Et dans ce cheminement accompagné par ces psaumes des montées, bien des sujets de la vie chrétienne ont déjà été abordés. Je ne sais pas si vous êtes un peu rendu compte, beaucoup de sujets sont abordés. Alors, on peut se poser quelques questions. Avez-vous commencé votre pèlerinage vers la cité céleste? C'est le psaume 120 qui nous indique le départ ou la reprise du chemin et de la difficulté de ce chemin. Savez-vous qui vous garde? C'est le psaume 121 qui nous encourage en nous présentant celui qui garde le pèlerin qui s'est mis en route. Où pouvez-vous être dans la joie, mes frères et sœurs, pèlerins? Dans quel endroit pouvez-vous faire des arrêts dans votre voyage? C'est le psaume 122 qui nous en parle. Dans quelle direction avancez-vous? Le psaume 123 nous aide à nous orienter. Que faites-vous des délivrances passées? Eh bien, le psaume 124 nous guide dans une attitude stimulante et excellente à ce niveau-là. Connaissez-vous la stabilité dans votre périple de vie? C'est le psaume 125 qui nous indique comment vivre cette stabilité. Que faire lorsque nous sommes tristes et que tout semble difficile? Eh bien, le psaume 126 nous montre un chemin pour ranimer notre espérance. Comment ne pas travailler inutilement? C'est le psaume 127 qui nous l'explique. Mais où est le bonheur? Comment comprendre les bénédictions de Dieu? Eh bien, nous l'avons vu dimanche dernier avec le psaume 128. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une réponse à la question, mais que faire face à l'oppression? Que faire face à l'oppression? Et comme le psaume est formé en deux parties, l'une parlant du passé et l'autre parlant du futur, eh bien nous allons logiquement avoir deux points pour cette prédication qui s'intitule « Le constat de la délivrance de l'oppression » et deuxièmement, la demande de l'inefficacité de l'oppression. Et je vous invite à relire les quatre premiers versets avec moi pour ce premier point, le constat de la délivrance de l'oppression. Verset 1 du psaume 129, donc cantique des montées. « Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a détaché les cordes des méchants. » Le psaume, en fait, par ces versets, commence par un constat des attaques incessantes et cruelles contre le peuple de Dieu que Dieu s'est choisi. Mais l'ennemi ne l'emportera pas sur lui de façon à éliminer ce peuple. Ça, c'est, voilà, on a déjà un résumé, le constat qui est posé ici dans ces premiers versets. Et ces attaques ont commencé dès le début, dès la jeunesse du peuple. Alors, Osée 11:1 nous indique que la jeunesse d'Israël, puisqu'il s'agit d'Israël, hein, qu'Israël le dise, il est dit au verset 1, la jeunesse d'Israël correspond au temps où le peuple hébreu était en Égypte et où Dieu l'a fait sortir de ce pays d'esclavage. Là, c'est la jeunesse de ce peuple. Et le peuple a été durement opprimé en Égypte, donc dès sa jeunesse. Pour commencer, le pharaon, afin de contrôler les Hébreux qui s'étaient multipliés, se met à les accabler de travaux pénibles, afin de limiter sa croissance. C'était une attaque contre ce peuple. Et voici ce qui est dit dans Exode 1, verset 12. « Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. » C'est ce qui correspond au psaume 129, à cette expression « Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. » L'attaque des Égyptiens continue. Non seulement ils accablent le peuple de travaux, mais ils assujettissent les Israélites à une servitude rigoureuse et ils rendent la vie des Israélites amère. Le roi d'Égypte va même convoquer les sages-femmes des Hébreux et leur ordonne de tuer tout bébé si c'était un garçon. Et voici ce qui est dit dans Exode 1, verset 17. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Et n'agissait pas comme leur avait dit le roi d'Égypte, elle laissait vivre les enfants. C'est ce même refrain que l'on peut reprendre du psaume 129. Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Ils m'ont attaqué, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. L'attaque se fait encore plus forte, car le roi n'ordonne plus aux sages-femmes de tuer les bébés, mais à tout son peuple de jeter les garçons dans l'eau du Nil. Et voici que Exode 2 nous raconte qu'un petit garçon est mis dans une corbeille sur le Nil et est sauvé de la mort par la fille du Pharaon qui pourtant avait demandé à tout son peuple de mettre à mort les garçons des Hébreux. Je trouve comme fantastique. Ils m'ont attaqué, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Lorsque Moïse s'est rendu auprès de Pharaon pour la première fois pour demander de laisser Israël partir, le tyran a rendu les travaux des Israélites, qui étaient déjà très difficiles, encore plus pénibles. C'était une attaque pernicieuse et cruelle. Le but, c'était qu'ils n'arrivent plus à penser à autre chose que leur travail. Le peuple était frappé, le dos des travailleurs était fatigué et ils étaient bien souvent même labourés de longs sillons qui avaient été tracés par les coups de fouet répétés. Et voici ce qu'il est écrit dans Exode 12, qui nous indique que le Pharaon lui-même renvoie les Israélites. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez servez l'Éternel. Les Égyptiens qui opprimaient le peuple les pressent de partir en leur donnant de grandes richesses. Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi, dit le psaume 129. Ils m'ont attaqué, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. » La sortie d'Égypte même est la délivrance de l'esclavage. L'Éternel détache la corde des méchants. Ce qui est dit dans ce psaume, la corde des méchants, c'est la corde que les méchants ont mis autour pour rendre esclaves. L'Éternel détache la corde des méchants. Il libère son peuple opprimé des chaînes de l'ennemi. Et tout au long de l'histoire d'Israël, les attaques de l'ennemi ont continué. Dès la sortie de l'Égypte, avec les Amalécites qui ont attaqué le camp militairement, les Moabites qui ont voulu attaquer par malédiction, qui ont attaqué par la tentation sensuelle et l'idolâtrie, les peuples de Canaan qui se sont ligués contre Israël pour le détruire, le peuple qui a été opprimé par d'autres peuples pendant la période des juges, les peuples qui ont attaqué Israël pendant la période des rois jusqu'à la déportation, et pourtant, le peuple a continué d'exister. Car tous ses ennemis ne l'ont pas emporté sur lui. Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi, est-il dit dans le psaume 129. Car ce peuple que j'aime appeler le berceau du Christ, est de ce peuple est sorti le véritable Israël, le serviteur souffrant et victorieux. Et Jésus a probablement chanté ce psaume 129 lorsqu'il se rendait à Jérusalem pour les trois fêtes annuelles. Les paroles de ce psaume dans la bouche de Jésus ont pris un sens très profond et personnel. Jésus, l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même parmi nous en tant qu'homme, a été attaqué dès sa jeunesse. Dès sa petite enfance, on a cherché à l'éliminer. Ce qu'Hérode a cherché à faire, comme Pharaon l'a fait dans le passé, il a fait tuer tous les bébés garçons à Bethléem, en espérant mettre à mort l'enfant annoncé par les mages qu'ils étaient allés adorer. Mais il ne l'a pas emporté sur lui, car Joseph, averti par un songe, est parti pour éviter ce terrible massacre pour ce fils que Dieu protégeait. Jésus, dès le début de son ministère, a été opprimé par les responsables religieux qui cherchaient un moyen pour le faire mourir très rapidement. Très rapidement au début de son ministère, il voulait déjà le faire mourir et qu'il voulait dénigrer tout son enseignement. Et ils ont été jusqu'à livrer Jésus aux étrangers, aux Romains, qui devinrent les bourreaux de Jésus, qui lui ont labouré le dos par les coups de fouet. De longs sillons suintant de sang ont été tracés sur le corps nu de Jésus par les fouets cruels des Romains qui, par cruauté, attachait encore des petits bouts de métal ou d'os pointu pour que à chaque coup de fouet, il y ait donc cette déchirure de la peau. Les méchants l'ont attaché à une croix par des clous infâmes pour que Jésus soit enchaîné par la mort, les liens qu'on voulait mettre autour de lui pour qu'il ne puisse plus agir du tout. Mais, il est écrit que Dieu l'a ressuscité des morts. L'Éternel est juste, il ne laissera pas son serviteur innocent dans les liens de la mort, dans la tombe. Il le détache des cordes du méchant, comme il est écrit dans le psaume 129. Il a détaché les cordes des méchants. Jésus-Christ n'est plus mort. Il est ressuscité, il est vivant. Il accomplit ce qui est écrit dans ce psaume. Jésus-Christ est ressuscité. Les liens de la mort n'ont pu le retenir. L'oppression, les attaques des ennemis n'ont pas eu raison de lui. Ils ne l'ont pas emporté sur lui, même s'ils ont pu le tuer. Mais c'est par cette mort même que Jésus détache les liens de tous ceux qui se repentent par leurs péchés et saisissent son œuvre par la foi. C'est quand même fabuleux. Comme Dieu renverse toute la situation. Pour que même la chose la plus horrible qui est de mettre Jésus-Christ à mort, c'est la chose la plus horrible qui puisse être faite, puisse devenir le moyen par lequel vous et moi qui croyez en Christ sommes sauvés. Avez-vous déjà été attaqué dans votre vie? Avez-vous des ennemis? Je vais vous en proposer trois que je suis sûr que vous avez. Le premier, c'est le péché. Le péché est un ennemi redoutable qui se cache dans nos cœurs et nous attaque très durement dès notre jeunesse. Il cherche à nous asservir à toutes sortes d'idoles comme le bien-être, le pouvoir, la réussite, pour n'en citer que quelques-unes très largement adorées autour de nous, et malheureusement encore trop souvent par nous aussi. Le deuxième ennemi, c'est le monde, un ennemi dangereux qui influence nos pensées et nous détourne de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. Et le monde cherche par tous les moyens que nous devenions amis avec lui. Pour que nous nous détournions de Dieu. Afin de mettre à mal notre relation à Dieu. Il nous attaque dès notre jeunesse. Et peut-être même très particulièrement pendant la jeunesse.
Bien que ça ne s'arrête pas là, évidemment.
Le troisième ennemi, Satan, est un ennemi épouvantable qui cherche à faire tomber toute personne dans le péché et ainsi à l'entraîner dans l'amour éternel. Il utilise quantité de moyens pour attaquer et même de labourer le dos de ceux qui ne veulent pas suivre ses conseils pernicieux, qui ne veulent pas se détourner de Dieu. Et labourer le dos, c'est une image qui indique de grandes souffrances qui laissent des traces profondes. Il suffit de penser à nos frères persécutés dans la foi, dans le monde. La persécution des chrétiens fait des milliers de victimes. Et c'est vrai que quand on commence à réfléchir à ces actes atroces, c'est vrai que pour moi, souvent, ce qui sort de ma bouche, c'est « Mais jusqu'à quand, Éternel ? Jusqu'à quand ? Toi qui es juste et qui nous détache des cordes du méchant, laisseras-tu faire ces atrocités ? Jusqu'à quand ?» Et il y aura un jour où toute cette guerre face à nos ennemis prendra fin. La victoire de Jésus-Christ sera manifestée. Il n'y aura plus d'affliction, plus d'oppression, plus d'attaque pour ceux qui se seront confiés à leur sauveur. C'est certain. C'est certain. Mais en attendant le jour glorieux de cet avènement, nous pouvons faire nôtre la prière qui forme la deuxième partie du psaume 129. En fait, cette deuxième partie, je l'ai intitulée « La demande d'inefficacité d'oppression ». Nous allons relire les versets 5 à 8. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent tous ceux qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Et les passants ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Cette prière, qui peut être vue aussi comme une promesse d'ailleurs, est en fait une demande d'inefficacité de ceux qui ont de la haine pour le peuple de Dieu. Que tout ce qu'ils font devienne inefficace. Et voici les quatre choses que nous demandons ici à Dieu dans cette prière. La première chose, c'est que les ennemis échouent. Que les ennemis échouent dans toutes leurs tentatives de faire du mal. Hein? Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent, est-il dit dans le texte. La deuxième chose, c'est que les ennemis soient éphémères et qu'ils passent rapidement, qu'ils soient éphémères. Hein? Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on les arrache. Troisièmement, que les ennemis soient stériles, qu'ils ne produisent rien. Qu'il soit stérile, comme il est écrit, que le moissonneur ne remplisse pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Et quatrième chose, que les ennemis ne soient pas bénis. Que les ennemis ne soient pas bénis. Hein. Que les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. En fait, la demande du psalmiste est aussi la nôtre, puisqu'on peut faire nôtre cette prière. C'est que l'ennemi n'ait aucune efficacité dans le mal et que celui qui persiste dans le mal soit écarté. L'illustration de l'herbe sur le toit qui est développée dans les versets 6 à 8 est vraiment intéressante, quand on commence un petit peu à y réfléchir ici dans ce texte. Pensons aux ennemis qui persécutent les chrétiens actuellement. Avant même que l'on puisse voir, qu'on le puisse venir pour espérer peut-être récolter quelques grains, l'herbe est sèche et ne donne rien. Ça c'est l'illustration. Eh bien, c'est ce que nous désirons des persécuteurs de nos frères et sœurs chrétiens. Avant même qu'ils n'arrivent à mettre leur plan à exécution et qu'ils soient capables d'attraper dans leurs mains, quelque part, ces chrétiens, qu'ils sèchent et qu'ils n'y arrivent même pas. Comme l'herbe sur un toit ne pousse pas beaucoup, nous souhaitons que le champ des persécuteurs soit dans le même état que cette herbe sur ce toit. Qui ne peut même pas remplir la main d'une personne. Et comme un moissonneur sur le toit ne reçoit pas de salutations de bénédiction et de souhait d'avoir une belle récolte, comme cela se faisait
Vous rappelez peut-être hein, l'histoire de Boaz. Vous connaissez Boaz, le futur mari de Ruth, qui arrive dans son champ, enfin à côté de son champ, et là tous les moissonneurs lui disent « Que l'Éternel soit avec toi !» Non, c'est pas ça. C'est lui qui disait aux moissonneurs, voilà, faut que je le dise dans le bon sens. Il disait aux moissonneurs « Que l'Éternel soit avec vous !» Et eux répondaient « Que l'Éternel te bénisse !» Il y avait ces salutations de bénédiction durant la moisson, aussi particulièrement, puisqu'on voulait que Dieu bénisse ce temps. Et bien que l'ennemi de l'Éternel ne soit jamais béni dans cette moisson funeste de toutes ses actions contre le peuple de Dieu. C'est ce que nous souhaitons à tout persécuteur de chrétiens. J'aimerais vous donner deux exemples du Nouveau Testament pour nous indiquer comment vivre cette prière et comment Dieu y répond. Alors vous avez une connaissance biblique, vous savez qu'au début de l'histoire de l'Église, il y a eu des persécutions et une personne en particulier a persécuté l'Église, il s'appelle Hérode. Connaissez Hérode? Hérode, il a fait tuer Jacques. Il a fait emprisonner Pierre, qui est ressorti de la prison miraculeusement. C'est bon, le cadre est posé. Eh bien, l'Église priait. L'Église priait, et il priait, il pouvait très bien prier cette prière, que Hérode soit honteux et recule, qu'il soit comme l'herbe des toits, qu'il soit éphémère, et qu'il soit inefficace dans le mal. Et Acte 12 nous indique que Hérode a été frappé par un ange de l'Éternel et est mort rongé par les vers. Sa vie a été raccourcie, ses œuvres ont été stériles et il a été maudit par Dieu. Donc parfois, lorsque l'on prie pour certains ennemis de l'Évangile, c'est cela qui arrive. Je vais vous donner un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est Saul de Tarse, un persécuteur terrible qui allait même jusque dans les maisons pour chercher et arrêter ceux qui étaient chrétiens. Les chrétiens ont aussi prié pour Saul de Tarse comme ils ont prié pour Hérode. Qu'il soit honteux, qu'il recule, qu'il soit comme l'herbe des toits, qu'il soit éphémère et inefficace dans le mal. Et dans Acte 9, nous voyons que Dieu a arrêté Saul de Tarse. Il a rendu ses œuvres de persécution stériles en faisant de lui un apôtre qui allait répandre la foi. L'ancien Saul est mort et Dieu a ressuscité Paul, converti au Christ en puissant instrument dans la main de Dieu. La malédiction qui pesait sur Paul est tombée sur Christ qui a tout accompli à la croix pour son salut. Dieu peut répondre aussi de cette manière. C'est vrai que on souhaite qu'il réponde le plus possible de cette manière, mais ça c'est selon sa volonté souveraine. Et les chrétiens sont appelés à prier pour l'inefficacité des ennemis de l'Éternel, et il va agir. Parfois, en écartant les persécuteurs, comme il l'a fait pour Hérode, et d'autres fois, comme je le disais, c'est vrai, c'est ce qu'on espère souvent plus, mais ça ne nous appartient pas, en répondant, en transformant le mal en bien, en transformant en un ennemi de l'Évangile en un champion de l'Évangile comme Paul. La réponse de Dieu ne nous appartient pas, il est souverain. Hérode qui voulait tuer, éliminer les chrétiens, il voulait tuer, il est mort, tué par sa folie. Saul de Tarse qui voulait éradiquer la foi chrétienne de la terre, il voulait quelque part tuer cette foi chrétienne, est devenu un fervent défenseur de cette foi chrétienne qu'il a répandue dans le monde et pour laquelle il a été mis à mort. Mais en portant des fruits pour la gloire de Dieu. C'est vrai que parfois on a l'impression que l'oppresseur réussit quand même un petit peu. Hein, parce que ça dure assez long parfois, les persécutions, c'est vrai. Et ça met notre foi à l'épreuve. Et c'est là qu'il est bon parfois d'aller lire des textes comme le texte d'Apocalypse 20. On voit très clairement dans Apocalypse 20 le point de vue du ciel. Du point de vue du ciel, en fait, ceux qui sont morts, c'est-à-dire qui ont été persécutés, qui sont mis à mort à cause du témoignage de Christ, règnent dans le ciel. Alors que les ennemis sont jetés dans les temps de feu. Même au milieu de la pire des persécutions, celui à qui on prend la vie à cause de la foi en Jésus-Christ, il règne avec Christ. Alors que celui qui persécute, lorsqu'il passe à trépas, il est en enfer. Et il sera jeté dans la géhenne éternelle.
Et voilà le lien que nous pouvons faire maintenant avec ce texte de 2 Corinthiens 4 que nous avons lu tout à l'heure. Nous ne nous arrêtons pas aux choses visibles, qui sont passagères, mais aux choses invisibles, qui sont éternelles. Nos souffrances présentes, et nous devons être prêts à souffrir, puisque ça fait partie de ce que nous vivons ici. Si vous pensez qu'il ne faut pas souffrir, si l'idole du bien-être vous susurre à l'oreille qu'il ne faut jamais souffrir, c'est un mensonge. On ne doit pas le chercher, mais on ne doit pas en être étonné. C'est normal de souffrir. Mais nos souffrances sont en fait bien peu de choses face à la gloire que nous allons vivre pour l'éternité. C'est beaucoup plus grand que la petite souffrance présente, mais qui peut être grande pour nous, évidemment. On ne va pas minimiser ce qui est difficile. Par contre, si on regarde la grandeur de la gloire et de ce qui nous attend, c'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Et j'aimerais terminer ce point en nous encourageant à prier pour l'inefficacité des oppresseurs. Prions pour l'inefficacité des oppresseurs. Nous pouvons prier pour que les chrétiens persécutés, en fait, le soient moins. Ou bien que leurs persécuteurs ne puissent pas les atteindre. J'aimerais vous raconter une petite histoire vraie qui s'est passée, où on voit comment Dieu parfois rend inefficace une action d'un oppresseur. Il s'agit de Jacques, un responsable d'église, qui malgré les menaces de la police continue à prêcher et à organiser des baptêmes. Et un jour, donc il y a une cérémonie de baptême, et le lendemain, il était à la maison, il vivait dans une petite ferme, le lendemain, un de ses amis arrive en courant, en haletant, dit « La police, cache-toi !» Alors Jacques cherche un endroit où se cacher, il se demande où il va, il court derrière la ferme, il voit un vieux four à pain, hop, il va dans le four à pain. La police arrive et il cherche le prédicateur dans toute la maison, de la cave au grenier. Ils vont dans l'écurie, qu'ils fouillent avec minutie, ils vont dehors, ils voient un grand tas de foin qu'ils mettent sans dessus dessous pour voir s'il n'est pas là. Et à ce moment, le chef de police remarque le four à pain. Avec ses hommes, il s'approche de l'entrée du four à pain pour aller vérifier s'il n'y a personne dans ce four. Et il s'arrête devant le four à pain, où en fait il y avait une jolie toile d'araignée qui masquait l'entrée. Il a dit, mais de toute façon, s'il était entré dans ce four à pain, il n'y aurait pas de toile d'araignée. Ils sont repartis. Dieu a rendu inefficace la recherche de ces gens avec une petite araignée qui a fait sa toile pendant le temps qu'il cherchait ailleurs. Vous voyez comment Dieu peut rendre inefficace ? Donc prions que Dieu rende inefficace les œuvres des oppresseurs. Et en vous intéressant un peu à l'histoire de nos frères et sœurs persécutés, vous trouverez de nombreuses réponses à cette prière de demande d'inefficacité que nous trouvons dans le psaume 129, des versets 5 à 8. Soyons donc prompts à prier cela, tout en sachant que ce sont des délivrances temporaires qui ne font qu'illustrer une plus grande délivrance, la délivrance éternelle où Dieu rendra complètement inefficace le péché et la mort par le sacrifice de Jésus-Christ qui est déjà pleinement accompli mais qui sera pleinement manifesté à ce moment-là. Et en conclusion, qu'allons-nous retenir de ce psaume 129 qui a été écrit bien des années avant la venue de Jésus-Christ? Mais c'est vrai que tout l'Ancien Testament pointe vers Christ. Que ce soit les prophéties qui parlent de lui directement, que ce soit les figures, donc des personnes qui représentent déjà Jésus-Christ sous certains traits de caractère, que ce soit même des textes poétiques qui expriment des vérités qui le concernent. Et ce psaume, justement, en est un. Il fait partie de cette catégorie qui annonce la venue de Christ. Jésus-Christ a été attaqué dès sa jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur lui. La cruauté de l'homme pécheur a labouré son dos et il a été livré à la mort pour être lié par elle, mais l'Éternel est juste et il l'a détaché des cordes que les méchants lui avaient mises. Jésus est ressuscité, il est vivant. Cette libération de l'oppression, il nous la donne pour que nous nous repentions de nos péchés, que nous croyions qu'il a tout payé et qu'il a vécu une vie parfaite qu'il nous donne. Est-ce que vous êtes libéré de l'oppression du péché? Le titre de cette prédication était en lien avec l'oppression. Comment réagit-on face à l'oppression? Eh bien, comment réagissez-vous face à l'oppression du péché? Le seul chemin, c'est la croix, qui nous libère de cette oppression. Prions que les oppresseurs soient inefficaces. Et les oppresseurs, ça peut être des péchés dans vos vies, mes chers frères et sœurs. Prions qu'ils soient inefficaces. Et éloignons-nous, bien entendu, de ces oppresseurs. Et remercions Dieu pour la promesse qu'il nous donne qu'un jour Jésus-Christ reviendra et que tous les oppresseurs seront rendus inefficaces pour toujours. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes bien conscients que ce n'est pas une situation facile d'être sous l'oppression. Nous l'avons déjà vécu, nous le vivons. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à retenir cette grâce de ce psaume 129, qui nous indique dans un premier temps que ces oppressions ne sont pas trop grandes pour nous emporter loin de toi pour l'éternité. Car tu es un Dieu juste qui détache les cordes des méchants. Et nous te remercions et te prions, Seigneur, de vraiment nous garder de ces oppresseurs. Te prions pour nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles. Te remercions pour les réponses que tu as données, où tu voulais que des hommes de Dieu continuent à être utiles dans ce cadre-là. Nous savons que tu as permis que d'autres aillent en prison aussi, pour être utiles dans ce cadre-là, pour annoncer ta gloire. Seigneur, nous savons que tu fais tout à merveille et nous pouvons nous confier en toi. Et nous te prions, Seigneur, de rendre inefficaces les œuvres des oppresseurs. Nous te remercions parce que tu nous donnes cette possibilité dans ta parole, de venir vers toi, de demander qu'il soit comme de l'herbe qui sèche, qu'on ne peut même pas moissonner, qu'on ne voit même pas fleurir. C'est ce que nous souhaitons, Père, à tout oppresseur. Et c'est vrai, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, que ces oppresseurs puissent être transformés par ta grâce, touchés à salut, et devenir des personnes qui annoncent ton évangile. Merci parce que tu l'as déjà fait à plusieurs reprises dans l'histoire, où les personnes persécutaient tes enfants et sont devenus des fervents défenseurs de la foi. Et nous te remercions, parce que cela montre ta puissance et ta grâce que tu veux aussi nous donner. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.